J'ai en ligne Monsieur Yannick Racicot, qui est directeur de l'Association québécoise pour l'équité et l'inclusion au poste secondaire, qui va nous parler de la rentrée 2020, justement, pour les étudiants ayant des limitations fonctionnelles. Bonjour, Monsieur Racicot.
Bonjour, Monique, ça va bien?
Ah, ben ça va très bien, merci. Dites-moi, Monsieur Racicot, pouvez-vous me dire depuis quand existe l'Association québécoise pour l'équité et l'inclusion postsecondaire et qu'est-ce qui a motivé sa création?
L'association existe depuis 1991, donc ça ne date pas d'hier.
Non, en
Puis,
effet.
Au fond, sa création a été motivée par l'apparition des handicaps, l'apparition des étudiants. D'un plus grand nombre d'étudiants en situation de handicap dans les établissements postsecondaires. Il y avait certains enjeux au niveau des limitations et tout ça, donc ça a motivé la création de l'association.
D'accord. Quand on parle de postsecondaire, ça veut dire quoi pour le bénéfice de nos auditeurs?
Oui, en fait, c'est tout ce qui se trouve après le secondaire. Donc, on finit son secondaire 5.
Oui.
On veut entreprendre des études au cégep, par exemple. Ça qualifie comme postsecondaire, donc c'est après le secondaire.
OK, donc on a le cégep et les universités aussi, j'imagine.
Le cégep et l'université, exactement.
D'accord.
Ouais.
Alors, est-ce qu'on sait à l'heure actuelle si la rentrée se fera en classe ou en ligne dans les cégeps et les universités?
Je crois que la majorité des cas, à moins que je ne m'abuse, ce sera en ligne.
Ah, d'accord. Donc, aucune présence sur les campus, que ce soit au cégep.
À moins de cas vraiment spéciaux, je dirais que ce sera complètement en ligne, oui.
D'accord. Est-ce que vous savez si les cégeps et les universités ont déjà informé leurs étudiants de comment se déroulera leur trimestre?
C'est dur à dire, mais je crois que oui, là. Je crois que ça va être une continuité de la fin de session de la session dernière.
Ah, d'accord.
Puis, oui.
Est-ce que vous savez si les étudiants sont inquiets de vivre cette réalité à nouveau? Parce qu'on a entendu beaucoup de choses à la fin du trimestre dernier. Donc, comment ça se présente selon vous pour
Vous
ces
avez raison.
étudiants?
Ouais, vous avez raison. On a beaucoup de témoignages d'étudiants qui sont anxieux
Ah
à la
oui.
rentrée scolaire.
Oui. Et comment
Puis,
est-ce que vous avez des actions pour accompagner ces étudiants-là?
mais nous, en fait, ce qu'on vérifie là, c'est de, on veut s'assurer que les accommodements des étudiants sont respectés. Même si les cours restent en ligne.
Bon, décrivez-nous un petit peu qu'est-ce que ça peut vouloir dire, là, ces accommodements-là, qui étaient, dont on devait, comme institution, assumer la responsabilité. Maintenant que c'est en ligne, ça veut dire quoi?
Mais ça veut juste dire de s'assurer qu'on met en place des moyens pour assurer la réussite de l'étudiant. Par exemple,
Oui.
une personne qui à faible cécité, par exemple, devrait avoir ou peut utiliser un certain type de dossier, un fichier Word, un fichier PDF, par exemple, pour utiliser la lecture du texte. Donc, c'est d'assurer que les enseignants transmettent les bons dossiers aux étudiants qu'ils ont besoin, même si les cours sont à distance quand même. Donc, ça, c'est un exemple vraiment spécifique, mais il y
Oui,
en a d'autres.
oui. Il y en a d'autres, par exemple, je pense que certains étudiants avec des déficits d'attention ont droit à plus de temps, en tout cas quand c'était en
Exactement.
classe, avaient droit à plus de temps pour dans les périodes d'examen. Comment ça se présente, cette réalité-là, lorsqu'on est à distance?
Je crois que les enseignants ont balisé les examens de sorte à ce qu'il n'y ait plus de limite de temps pour personne.
Ah bon?
Si
D'accord.
je ne m'abuse.
Ah
Euh,
oui.
c'est euh, c'est sûr que si, advenant qu'il y aurait une limite de temps,
Oui.
Les accommodations pour les personnes qui ont besoin de plus de temps vont être respectées quand même.
Ah d'accord. J'ai cru comprendre qu'il y a des établissements qui envisageaient quand même de donner des cours dans des endroits assez particuliers comme des églises ou des salles de spectacle. Est-ce que vous avez entendu parler de telles situations?
Non, pas vraiment,
Pas
mais c'est
vraiment?
sûr que si on commence à donner des cours dans les salles d'église, par exemple, ou des salles de spectacle un peu moins, parce que les salles de spectacle sont un peu plus, les bâtiments sont un peu plus neufs, mais les salles d'église, c'est des vieux bâtiments. Donc, ça peut compromettre l'accessibilité physique du lieu.
Et comment est-ce que vous pouvez accompagner ou aider à ce moment-là nos personnes en situation de handicap? Est-ce que vous avez,
Ben,
il y a des
en...
représentations que vous faites ou
Mm-hmm. Ben, en fait, c'est de s'assurer que si, par exemple, le cours est déplacé dans une salle d'église, par exemple, c'est de s'assurer de l'accessibilité des lieux. Nous, je veux dire, on peut pas vraiment choisir l'emplacement pour l'université. C'est l'université qui choisit. Nous, ce qu'on peut faire, c'est de s'assurer que les lieux soient bel et bien accessibles pour tous.
Oui. Au printemps dernier, il y a des sessions qui se sont terminées en ligne. Est-ce que vous savez si il y a des étudiants justement qui ont éprouvé des problèmes quant à l'accessibilité des plateformes? Est-ce que c'est un enjeu encore pour le trimestre d'automne?
Oui, en fait, on a eu beaucoup de témoignages de personnes malentendantes qui avaient de la difficulté à suivre le cours par un mauvais équipement ou autre. Puis l'accessibilité des plateformes comme telles, on a eu des témoignages de personnes à faible cécité qui avaient de la difficulté à naviguer sur la plateforme même. Donc, on commence à être un peu plus familier maintenant avec la plateforme Zoom, par exemple.
Oui.
Et on sait qu'avec la plateforme Zoom, donc on doit appuyer sur un bouton pour lever la main ou activer son micro. Quand on est un petit peu moins familier avec la plateforme, bien, ça peut occasionner des problèmes pour les personnes, ces personnes-là.
Vos interventions, Monsieur Racicot, se font auprès de qui? Pour justement s'assurer que toutes ces mesures soient bien expliquées aux personnes en situation de handicap.
Nous, la façon qu'on procède, c'est que généralement, c'est les étudiants qui vont nous contacter.
Oui.
Lorsqu'on voit qu'il y a un problème d'accessibilité, nous, on va contacter les centres d'aide aux étudiants
Ah, d'accord, de chaque institution,
de
donc.
chaque institution. Puis, on va essayer de voir avec eux si on n'a pas une solution au problème.
Ah, d'accord. Est-ce que vous savez s'il y a des risques d'impact sur le transport adapté pour l'automne?
Ben, c'est sûr qu'il va y avoir des risques, autant positifs que négatifs. Hein. On sait que certains usagers ont des troubles de santé qui font qu'ils n'utiliseront pas nécessairement le transport adapté. Donc, de ce côté-là, ça peut occasionner des problèmes. D'un autre côté un peu plus positif,
Oui, allons-y.
on sait que le transport adapté, c'est quand même. Il y a certaines. On peut attendre le transport un certain nombre de temps, des fois que. 1 heure, 30 minutes, c'est un système qui fonctionne, mais des fois, il y a des complications. Donc, il y a certains étudiants qui vont quand même être contents de ne pas avoir à le prendre à chaque matin pour
Oui,
aller, mettons,
en étant à la maison, c'est ça?
exactement. Donc, se rendre ou attendre le transport le matin, je ne sais pas moi, à 6 heures le matin pour aller à un cours à 8 heures, par
Oui.
exemple. Donc, il y a vraiment un côté positif et un côté négatif.
Est-ce qu'il y a d'autres enjeux que vous surveillez attentivement dont on devrait, pour lesquels on devrait être vigilant.
Ben nous, de notre côté, on se penche toujours sur le problème du formulaire 10-15 de l'aide financière aux études.
OK.
C'est vraiment un gros enjeu ici, là, parce que depuis 2018, le gouvernement a changé le formulaire, ce qui ne
OK.
laisse plus la chance aux personnes, aux étudiants en situation de handicap émergents d'avoir accès à des bourses.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, des situations de handicap émergents, monsieur
Par
Asco?
exemple, quelqu'un qui a un TDAH,
Oui.
okay, qui voudrait appliquer, qui a une situation, qui a un handicap qui est reconnu médicalement.
Oui. Alors
Là,
là, on parlait du formulaire 10-15 qui permet donc d'obtenir de l'aide financière qui a été modifiée.
ouais, exact. Donc, depuis 2018, je crois. Puis, c'est justement là, les handicaps émergents, ça se trouve être, par exemple, des personnes qui ont un TDAH. Puis c'est une condition qui est reconnue médicalement, qui met l'étudiant en situation de handicap dans certains contextes. Puis malheureusement, depuis que le formulaire a changé, cette personne-là n'a plus le droit à l'aide financière aux études.
Ah, d'accord.
Donc, c'est très problématique là, en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se retrouvent dans cette situation-là.
Et quelle action est-ce que vous posez à ce moment-là?
Ben là, en ce moment, on a lancé une pétition qui s'est rendue à l'Assemblée nationale.
Ah oui.
Prochaine action, ce serait le recours collectif. Donc, on entreprend des actions là, pour mettre ça sur pied, là.
Ah oui, pour modifier cette réalité-là. Si
Exact.
des étudiants donc de niveau cégep ou université éprouvent certaines difficultés, est-ce qu'ils peuvent entrer en contact avec vous?
Oui, certainement.
Et comment doivent-ils procéder?
Vous pouvez soit simplement appeler au bureau 514-499-9451
Oh,
ou
vous
nous
répétez
contacter.
ça tout doucement.
OK,
514
désolé. 514-499-9451.
499 9451.
Oui, ou nous contacter sur nos réseaux sociaux,
Soit
Facebook.
Facebook et tout ça. Donc,
Oui.
à ce moment-là, on fait AQEIPS.
Exact. Donc, AQEPS, on fait la recherche AQEPS et vous allez nous trouver sur les réseaux sociaux.
Bon, ben écoutez, on vous souhaite bonne chance avec cette pétition déposée à l'Assemblée nationale. Bonne chance pour la rentrée et on vous souhaite une bonne journée, Monsieur Racicot. Merci beaucoup d'avoir été
Merci
avec
à
nous.
vous.
Au
Au
revoir.
revoir.